Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est donc une nouvelle période qui s'ouvre au Mali. Après 3 ans et demi de conflit et plus d'une année de négociations, l'accord pour la paix et la réconciliation a enfin été signé par toutes les parties. Cet accord avait déjà été signé le mois dernier par le camp gouvernemental et la médiation internationale. Le problème, c'est que les principaux groupes rebelles du Nord avaient refusé de le signer, invoquant un texte qui ne répondait pas aux réalités de la crise. Finalement, après de nouveaux pourparlers et de fortes pressions internationales, la CMA, la coordination des mouvements de la ZAWAD, qui rassemble donc plusieurs groupes armés du Nord, a accepté de signer. La cérémonie s'est déroulée samedi à Bamako. Mais le plus difficile reste à venir. La paix sur le papier, ce n'est pas la paix sur le terrain. D'ailleurs, le chef de la mission de l'ONU au Mali a prévenu les Maliens. La communauté internationale sera toujours à vos côtés, mais elle ne fera pas la paix à votre place. Alors croyez-vous en cet accord? Comment le Mali peut-il relever ce défi? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. Vous nous rejoignez au standard, évidemment. On a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI appelle sur l'actualité. André nous dit: les rebelles ont signé malgré eux-mêmes car ils voulaient une autonomie voire l'indépendance. Cet accord, nous dit André, n'est donc qu'une trêve. En revanche, Ibrahim, lui, est beaucoup plus optimiste. Il estime que les réfugiés et les déplacés vont enfin pouvoir retourner chez eux sans la peur au ventre. C'est vraiment une fierté pour la nation malienne d'avoir ses fils unis. Désormais, nous dit Ibrahim, les efforts qui étaient consacrés à la guerre seront déployés pour bâtir la nation avec plus de justice et de développement harmonieux. Au standard, Boubou est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour
à tous les auditeurs. Vous êtes à Bamako. Croyez-vous en cet accord?
Bon, le fait de ne pas, ce n'est pas croire ou de ne pas y croire, c'est maintenant de tout faire pour que les dispositions continuent dans cet accord-là, à partir du moment où toutes les parties se sont engagées à signer, soient respectées. Et c'est là les inquiétudes.
Oui, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'un accord est signé entre des groupes du Nord et un gouvernement malien. Donc, certains observateurs sont en droit d'être sceptiques.
Oui, certains observateurs sont en droit d'être sceptiques, mais ce qui différencie cet accord des accords précédents, c'est que cette fois-ci, on a un comité de suivi et d'évaluation internationale qui suit cet accord.
Ouais.
Mais l'inquiétude réelle, c'est que, est-ce que toutes les dispositions qui sont dans cet accord-là, nous y avons pensé pour pouvoir les mettre en œuvre?
C'est-à-dire, à quoi pensez-vous, Boubou?
Par exemple, si vous regardez, l'accord prévoit la création d'assemblées régionales.
Oui.
D'accord,
oui.
Avec un système de vote à suffrage universel ou non. Or, les institutions de la République sont actées par la Constitution. D'accord. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à aller vers une révision constitutionnelle pour pouvoir respecter les termes de cet accord? Parce qu'on ne peut pas créer des institutions comme ça sans référendum.
Ouais.
Sans changer la Constitution. Ça, c'est une première inquiétude.
Donc, il aurait fallu soumettre cet accord déjà à référendum, en tout cas, concernant la partie sur la décentralisation du pays.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que je vais vous dire, Juan, à mon avis, au Mali, ce n'est pas un problème Touareg en tant que tel, mais c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance, c'est les mêmes misères qui se répètent un peu partout sur le territoire du Mali. Donc, il faudrait penser à un modèle de décentralisation avancée qui pourrait s'appliquer à toutes les régions du Mali, et non seulement à une partie du Mali, qui nous pousserait beaucoup plus vers un sectarisme qu'autre chose.
Donc vous avez l'impression que cet accord privilégie le nord du pays?
Mais bien sûr, à mon avis, parce que quand je regarde l'accord, on me dit prioritairement les régions du nord. Et je ne veux pas de ce concept de région du nord et de région du sud. On passe à un modèle avancé qui puisse satisfaire à toutes les régions.
En tout cas, le président Ibrahim Boubacar Keïta, samedi, lors de la cérémonie, a lancé aux participants: faites-moi confiance, nous ferons en sorte que nul ne soit déçu.
La volonté gouvernementale est très claire. Vu les nombreuses concessions qu'il y a eu à faire presque à la limite de l'humiliation, on peut dire que la volonté gouvernementale du côté du Mali est très claire. Le Mali est très engagé dans la voie de la paix. Ouais. Ils ont refusé de signer. On a renégocié des avenants, des choses sur lesquelles on était d'accord. Le Mali a fermé les yeux sur beaucoup de choses. C'est que le Mali est prêt à aller vers la paix.
Vers la paix.
Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de guerre. Parce que la guerre, on l'a perdue. Maintenant, il s'agit de ne pas perdre la paix. Et cette paix-là ne peut pas se faire sans l'accompagnement de la communauté internationale et sans l'adhésion de tout le peuple malien.
Alors, en tout cas, la communauté internationale va évidemment accompagner le Mali, la France aussi, puisque aujourd'hui même, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu au Mali, notamment à Mopti et à Gao, déjà pour rencontrer son homologue malien, mais aussi voilà pour assurer que la France accompagnera le Mali tout au long de ce processus. Merci à vous, Boubou. Bonne journée à Bamako. Alassane, vous êtes malien de Paris. Bonjour Alassane.
Bonjour.
Il faut être optimiste, avez-vous dit au Standard.
Oui, il faut être optimiste parce que c'est une situation de crise qui a trop duré. Et puis être optimiste aussi pour ne pas faire fi de ce temps de négociation et de l'implication de la communauté internationale aux côtés du Mali pour résoudre ce problème qui a trop duré.
D'accord, mais il ne suffit pas d'être optimiste. Parfois, quand on regarde l'histoire, on peut tirer des enseignements de ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est ce que je disais à Boubou tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'un accord de paix est signé au Mali.
Certes, c'est pas la première fois, mais comme l'a dit mon prédécesseur, c'est la première fois que la communauté internationale s'est investie quand même aux côtés du Mali. Mais ce que disait le premier intervenant, effectivement, il appartient maintenant aux Maliens de prouver qu'on peut aller dans le sens ou vers la paix définitivement.
Qu'est-ce qui sera le plus difficile à mettre en œuvre? Alassane.
Le plus difficile, il vient d'en parler, mais je pense que sur certains termes de l'accord, il y a peut-être des confusions, parce qu'on ne peut pas être dans un État unitaire et parler d'assemblée constituante élue au suffrage universel. Là, je pense que le souci pour les Maliens aujourd'hui, c'est de revoir la décentralisation, les outils de la décentralisation depuis sa phase initiale au Mali, avant de parler de décentralisation poussée, parce que le problème de développement reste entier, du nord comme au sud du Mali. Et pour ça, je pense que chacun doit être interpellé en termes de bonne gouvernance, que ce soit au niveau de l'équipe gouvernementale ou de l'Assemblée parlementaire. Chacun a son rôle à jouer de façon efficace, avec des résultats tangibles au bout, quoi.
On suivra ça. Merci Alassane. Bonne journée à vous à Paris. 33 9 693 693 70. Voilà un point de vue qui risque d'alimenter le débat. Il est diamétralement opposé à celui d'Alassane qui nous appelait à l'instant. Abdelkader, bonjour.
Bonjour Juan.
Alors vous êtes affirmatif. Vous dites que cet accord c'est une mascarade de plus.
Exactement. Tout bon Malien aime la paix et le développement du Mali. Mais il faut qu'on se dise la vérité, le contenu de cet accord va dans les années à venir créer la partition de ce pays. Ils en ont parlé tout de suite, mes prédécesseurs. On ne peut pas privilégier les régions du Nord par rapport aux régions du Sud, parce que nous, les Nordistes, on n'a jamais eu de problème au Sud. On est dans toutes les institutions. Quand tu es compétent, tu passes au concours. Pourquoi mettre dans un paragraphe? On nous parle d'une armée qui doit être redéployé et reconstitué. Reconstitué de quoi? D'ex-combattants, ouais. Des gens qui ont trahi l'armée pour revenir encore se remettre dans l'armée. Ça va vexer les autres combattants, les autres militaires. On nous dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un président d'assemblée, comme ils l'ont dit tout de suite. C'est du fédéralisme. On n'est pas prêt à ce fédéralisme. Donc la mise en application de cet accord va forcément créer des problèmes. Ouais.
Pour revenir justement à l'armée, la cohabitation entre les soldats gouvernementaux et les ex-rebelles risque d'être assez tendue.
Mais forcément, ça va être tendu parce que des militaires qui se sont battus, qui n'ont même pas de prime, qui ont bravé la faim, la soif, de toutes les conditions de misère, qui sont là pendant des années, vont voir leurs compatriotes qui ont abandonné l'armée, revenir, se déployer dans l'armée, prendre des primes et être, avoir des galons supérieurs. Mais ça vexe, c'est obligatoire. Mais moi, ce que je veux vous dire, Juan, il va falloir que la communauté internationale, la France, l'Algérie, qu'on soit sincère et impartial, surtout la MINUSMA également. Parce que le problème dans la mise en application, il ne faudrait pas qu'on pense que ces groupes de narcotrafiquants sont représentatifs de la population du Nord, qui en écrasante majorité sont constitués de braves populations paisibles. C'est là où le problème va se poser. Quand on parle de Menaka, Menaka fait partie de la région de Gao. Pourquoi ces gens-là s'insurgent sur Menaka? C'est parce que Menaka est la porte d'entrée de la drogue, des djihadistes, de tout au Mali. La communauté internationale ne devrait pas accepter cette condition pour que la CEMA puisse signer.
Oui, alors en tout cas, il y a eu effectivement une concession, enfin un accord qui a été trouvé pour que Menaka, qui cristallise quand même les tensions, pour que les groupes armés pro-gouvernementales se retirent de cette ville et que ça soit les casques bleus qui reprennent le contrôle de cette ville. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des tensions autour du contrôle de Menaka. Un accord a été trouvé et c'est ce qui a permis effectivement aux rebelles du Nord d'être présents samedi à Bamako et de signer. 33 9 693 693 70. Mokhtar, vous êtes à Caille, me dit-on. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, on vous écoute.
Ok, Juan, moi je voudrais quand même que mes compatriotes fassent attention. Dire que l'accord pose les chemins de la succession, ça ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a aucune disposition dans l'accord qui viole la constitution malienne, la loi 93-001 du 11 février 4 portant sur la libre administration au Mali. Oui. On a dit le pacte national de 92. En son préambule, 7e
point. Attendez, excusez-moi, que vous fassiez référence à la Constitution, ça me semble important, évidemment, pour argumenter vos propos, mais que si vous commencez à sortir, à nous détailler article par article, ce sera un peu compliqué. Donc, vous êtes optimiste. Pour vous, rien ne dit dans cet accord qu'un jour ou l'autre, effectivement, il y aura partition du pays, comme le disait à l'instant, Alassane, je crois, de Paris.
Exactement. Aujourd'hui, moi, je pense que mes compatriotes, nous devons soutenir, contribuer vraiment à ce que cet accord puisse procurer la paix durable et définitive au Mali, plutôt que de créer des hypothèses d'école aujourd'hui auxquelles vraiment, c'est-à-dire, l'ensemble de nos textes au Mali sont très clairs sur les différents points. Moi, je peux même vous affirmer que les négociateurs du Mali n'ont fait que prendre les dispositions des textes pour les mettre dans l'accord.
D'accord. Pourquoi êtes-vous optimiste, Mokhtar?
Moi, je suis optimiste parce que je sais, par exemple, que quand on dit la représentation des populations du Nord à l'Assemblée nationale, la représentation des populations à l'Assemblée par l'augmentation du nombre des circonscriptions, je sais que bien avant l'accord en 2011, le Mali était déjà vers la création de 11 nouvelles régions, dont 6 vers les régions du Sud, qui vont donner naissance à peu près à 23 circonscriptions. À ce niveau, le problème ne se pose pas. Ça veut dire qu'on avait même la solution à ce problème bien avant les accords. Si nous prenons aussi la représentativité sur la base de 60 000 habitants, s'il y a eu injustice, ce n'est pas cet accord, parce qu'on sait que l'ensemble de la région de Kidal ne fait pas 60 000 habitants, comparé au cercle de Kaï seulement, qui n'a que 5 députés et l'ensemble de la région.
Mokhtar, ça me semble un peu confus, là, vous donnez trop de chiffres, et moi-même je suis un peu perdu, je me mets à la place de tous les auditeurs qui n'ont pas forcément tous les repères du conflit malien en tête, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Nous avons Sédou, qui nous appelle de Munich, en Allemagne. Bonjour Sédou.
Bonjour Juan.
Vous êtes optimiste ce matin?
Oui, optimiste, mais pas naïf. Hein.
On vous écoute, pourquoi?
Oui, parce que optimiste, je pense que, vous savez, ça fait, on a commencé ce conflit il y a 3 ans. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait être là aujourd'hui. Donc cela prouve qu'on est une nation vraiment qui mûre. Et si on a pu surmonter toutes ces difficultés, je crois que dans sa mise en œuvre, je vais parler de cet accord. Il faut être vraiment intelligent et impartial. Un de mes compatriotes avait eu à dire de ne pas vraiment... Moi, ce qui m'importe, c'est accepter ne pas faire la discrimination. C'est-à-dire, bien sûr qu'on a signé l'accord. Et on sait bien que le problème du Nord, c'est un problème qui est répétitif. Et puis, cette rébellion, ça vient chaque... c'est cyclique. Mais si on a un accord qui est suivi par la communauté internationale, je crois que dans sa mise en œuvre, on doit être vraiment intelligent et impartial. C'est-à-dire, tout ce qu'on va faire au Nord, il faut le faire au Sud, bien sûr. Et en fait, le Nord, je sais que le développement, c'est vraiment, on est un peu en retard par rapport au Nord. On peut donner une certaine priorité, mais dans sa mise en œuvre, il faut que ça soit vraiment global.
Global, mais en même temps, vous dites, voilà, je suis optimiste, mais pas naïf. C'est-à-dire, que craignez-vous? Quels sont vos doutes?
Vous savez ce qu'on a vécu. Il y avait eu des gens qui ont fait un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, dans sa mise en œuvre, il faut que tout le monde ait la bonne foi, qu'on respecte nos engagements et qu'on n'essaye pas surtout de profiter de la situation et pour mettons l'intérêt collectif en avant.
Alors on va voir si chacun, un de vos compatriotes qui nous appelle d'Oran en Algérie, partage la même approche. Bonjour chacun.
Bonjour à vous.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, je dirais que par rapport à mes prédécesseurs, que cet accord est inapplicable. C'est pas un bon accord, monsieur Ouane. Il faut pas accélérer, c'est pas un bon accord.
Pourquoi?
Parce que on ne peut pas tendre la main à un gouvernement qui représente un État au profit des groupuscules qui ne représentent qu'eux-mêmes pour signer des accords qui vont gérer toute la vie d'une nation. C'est impossible, M. Obama.
Mais ça veut dire qu'à aucun moment il n'aurait fallu négocier quoi que ce soit avec la CMA, alors, à vous entendre.
Il ne fallait pas négocier. Il fallait négocier avec la CMA, mais il fallait que l'État puisse négocier en tant qu'État. Mais en n'étant pas qu'une autorité réprimée qui subit des pressions de la part et de la communauté, surtout de la communauté internationale, la France en tête.
Oui, enfin, la CMA, les rebelles du Nord, ont subi également de grandes pressions internationales.
Aucune pression, monsieur Rouhan, aucune pression internationale. Bon. Quelle pression internationale? Ils n'ont pas suivi. Vous parlez de quelle pression?
Beaucoup de vos compatriotes ont l'impression qu'on a un peu forcé la main aux rebelles pour signer cet accord. Eux qui demandaient dans un premier temps l'indépendance, ils n'ont même pas l'autonomie.
il faut faire la différence entre ce qu'ils appellent indépendance et autonomie. Qu'est-ce que l'accord leur donne tout? Que ce soit l'indépendance, l'autonomie, déjà, ils ont tout. Déjà, l'État va leur allouer 45% de son budget pour le développement que des régions du Nord. Ça, c'est plus que l'indépendance. Ils vont prendre et ils vont manger. Il faut être très clair. Ne soyons pas dans les visions politiques, politiciennes pour se retenir. Cet accord est impossible à appliquer au Mali.
Bon, vous êtes donc très pessimiste. Issouf, qui nous appelle de Bamako, parle d'un dénouement heureux. Bonjour Issouf.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez bienvenus, on vous écoute.
Ok, bonjour Anne, merci de m'avoir donné la parole. En tout cas, pour tout partisan de la paix, je pense que c'est une très bonne chose, c'est un dénouement heureux, parce que le Malien lambda attendait cela de vive voix pour que cet accord puisse également voir le jour. Mais la signature, comme l'ont dit beaucoup de mes prédécesseurs également, c'est pas forcément la paix. Il faut veiller au respect strict des principes également qui sont également dans cet accord. Parce que aujourd'hui, après plus d'une année, et la partie algérienne aussi, qui a travaillé d'arrache-pied pour le Malien, arrive à cet accord, il va falloir que cela soit respecté, et par le gouvernement malien, et par les groupes rebelles qui sont effectivement au nord du Mali. Mais aussi, nous interpellons tout de même la participation de la communauté internationale. Il ne suffit pas seulement de dire les Maliens, nous sommes à vos côtés, mais ce respect doit être imposé pour que le Mali puisse aller quand même de l'avant. Parce que chaque fois quand il y a des perturbations comme cela, ça met quand même à terre l'économie d'une nation. Donc le Mali aujourd'hui a tant souffert. Il y a des concours de la fonction publique qui sont en attente également pour l'organisation.
Mais vous dites que la communauté internationale doit vous accompagner, c'est ce qu'elle fait depuis le début de la crise. Accompagner le Mali, non?
La communauté internationale le fait, mais au cas de non-cessez de fait, est-ce que la communauté internationale peut quand même donner de la certitude au Mali comme quoi nous serons à vos côtés toujours? Ils le disent, mais je souhaiterais que cela soit quand même une réalité qui se traduira dans l'avenir pour que plus jamais on ne revienne également à cette image qui n'a fait que trop durer. D'accord. Et salir aussi également l'image du Mali tout entier.
Merci voilà, à vous de nous avoir appelés. Très bonne journée à Bamako. Merci à vous tous de votre fidélité, de l'intérêt que vous avez porté à cette émission. En tout cas, que la France va aider la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est ce que prévoit de dire tout à l'heure Jean-Yves Le Drian, le ministre français qui est attendu donc à Mopti et à Gao. Demain, nous parlerons de la Centrafrique où les autorités de la transition ont annoncé le nouveau calendrier électoral. Un calendrier jugé trop ambitieux par certains. Alors, peut-on s'attendre à la fin de la transition?